Acte 2. L'émission d'entrevue de l'association du passage à l'acte. Nous partons aujourd'hui à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Dans le quartier des Forges, éloigné d'à peine 10 km du port, une association née il y a 2 ans chapeaute un jardin qui existe, lui, depuis une dizaine d'années, le Jardin des Forges. Alain Paris en est à l'initiative. Amoureux de nature et soucieux de bien-être en général, il a mis en place un lieu où se retrouvent diverses pratiques culturales et culturelles. Potager en mandala, plantes médicinales, arbres fruitiers par centaines, poules, moutons, lapins, pigeons, abeilles et céréales se côtoient sur quelques hectares. Un dénominateur commun rassemble ces activités agricoles menées à plus ou moins grande échelle, les variétés anciennes et ou locales. Le Jardin des Forges n'est ni plus ni moins qu'un conservatoire. Tomates, pommiers, cerisiers, animaux y évoluent en toute quiétude, s'adaptant d'année en année au terrain et au climat. Alain a tenu en particulier à cultiver les blés. Environ 300 variétés sont cultivées sur des micro-parcelles. Ces variétés sont toutes non hybrides, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas issues de croisements volontaires qui rendraient leur reproduction aléatoire, pour ne pas dire impossible. Bien au contraire, l'association les ressème chaque année pour les maintenir vivantes et leur permettre de s'adapter aux évolutions du climat et du terrain. Pourquoi et comment maintenir en vie toutes ces semences ? Alain Paris nous explique le fonctionnement du Jardin des Forges, qu'il cultive sans pesticides ni engrais chimiques, mais avec passion et intérêt, tant pour la santé de la planète que pour celle des hommes. Nous sommes avec Alain Paris, qui gère le Jardin des Forges. Est-ce que, Alain, tu peux nous expliquer quel est ton rôle au Jardin des Forges, dans un premier temps ?
Alors, disons que le terrain du Jardin des Forges, ça fait à peu près 10 ans que je l'ai acheté. Et au départ, c'était une parcelle, c'était un champ. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un arbre, il n'y avait rien du tout. Et donc, ça fait 10 ans que je travaille dessus pour l'aménager. Alors, ça commençait avec des arbres fruitiers, un petit potager. Et 10 ans après, il y a à peu près 4 hectares d'une centaine de variétés de pommes. Il y a une vingtaine de variétés de cerises. Il y a des abeilles, il y a des poules, des lapins, des moutons, des pigeons. Et depuis à peu près 7 ans, on travaille sur les variétés anciennes de blé. Donc il y a, quand on travaille toute la collection, à peu près 330 variétés de blé qui sont mises en place en micro-parcelles tous les ans.
Toi, dans ce jardin, tu t'occupes de tout. Maintenant, tu le fais avec une association. Est-ce que tu peux nous raconter le fonctionnement et ensuite on parlera des blés?
Alors, disons qu'au départ, quand j'ai commencé, c'était pour continuer ce que j'ai toujours fait depuis que j'ai 24 ans, c'est-à-dire de faire du jardin pour moi, pour manger d'abord, hein, pour s'alimenter de façon saine, sans traitement, puisque depuis le départ, ça a toujours été cultivé en bio et j'ai toujours fait du jardin dit bio, hein, parce que là, on pourra revenir là-dessus si on va en parler. Et c'est quand on a commencé à, enfin quand j'ai commencé à collectionner les variétés de blé, ça représentait énormément de travail. Et donc au bout de 8 ans, je me suis dit que ça serait quand même bien de partager un petit peu tout ça et que finalement il y avait largement assez grand pour plusieurs personnes. Et c'est là qu'on a mis en place l'association au Jardin des Forges, qui existe donc depuis 2 ans et qui a permis de fédérer un petit peu des gens autour du projet de la conservation des semences anciennes, donc des semences non hybrides. Et donc d'avoir des gens qui participent à ce projet et à cette aventure qui dure maintenant depuis 2 ans et on a une 50aine d'adhérents. Et sur les 50 adhérents, il y a surtout, je dirais, une dizaine de personnes très actives. Et puis on a aussi en parallèle une activité sur la vannerie sauvage. Et donc là, ça représente une quinzaine de personnes aussi. Donc on fait des paniers, des panetons pour faire le pain.
Le principe de la vannerie sauvage, c'est qu'on prend des plantes là où elles sont, c'est ça?
Donc en fait, on n'utilise que ce qu'il y a sur le site, sur le jardin. Donc du châtaignier, de l'osier, parce qu'il y a plusieurs plants d'osier, de la ronce qui est fendue, et de la paille.
On va parler principalement de l'activité de conservation des semences anciennes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé d'abord à te lancer dans cette activité ?
Alors, déjà dès le départ, l'idée c'était donc de s'alimenter correctement, et puis après c'est aussi la notion d'autonomie et d'être un peu indépendant des marchands, des granitiers qui nous vendent des hybrides et on n'a pas forcément, enfin, sur le principe, moi ça me plaît pas trop d'avoir des plantes qui ne soient pas reproductibles. Alors, donc tout ce qu'il y a sur le site, On peut récolter les graines et les ressemer puisqu'il n'y a aucun hybride sur place. Donc c'est cette idée d'autonomie. Et puis deuxième chose, une plante hybride, c'est une plante qui est stable et homogène puisque ce sont des plantes qui font partie du catalogue officiel des semenciers. Par contre, aucune possibilité d'adaptation au climat, au sol, à l'agriculteur qui les sème. Et donc c'est aussi ce qui m'a motivé pour travailler sur des variétés anciennes, puisque ce sont des variétés qui s'adaptent en permanence. Et on a fait l'expérience sur des blés avec une même variété en 3-4 ans de temps, en semant à des endroits différents, avec des gens différents, avec des méthodes différentes et des climats différents. Et déjà au bout de 3-4 ans, on voit des différences. Ça s'est fait avec du rouge de Bordeaux, par exemple, hein, qui est une variété ancienne. Voilà. Et donc déjà, en 3-4 ans, on a vu que le grain évoluait différemment, que l'épi était différent, la hauteur des pailles était différente, etc. Donc, en fonction des endroits, il y avait déjà une évolution qui se faisait. Et comme on sait qu'il y a quand même un petit souci quand même avec le climat qui a tendance quand même à se réchauffer, tout le monde semble être d'accord là-dessus. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent pour faire des hybrides, pour faire des OGM. Il y a des blés en ce moment, on est en train de travailler sur des blés qui n'auraient pas besoin d'eau, par exemple. Donc, plutôt que d'avoir toutes ces variétés un peu, je dirais, travaillées chimiquement ou industriellement, et on sera forcément dépendant de la semence, hein, puisque ce sont des gens qui nous vendront ces semences-là. On a sous la main des variétés qui sont capables d'elles-mêmes de s'adapter à cette évolution du climat, puisque le blé, à titre d'information, il a 15 000 ans. Donc, il a traversé l'histoire depuis 15 000 ans. Donc, je pense qu'il est encore capable de le faire pendant quelques milliers d'années.
Le blé que vous cultivez ici, il sert à des paysans. Comment ça marche? Est-ce que vous le diffusez?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord un aspect conservation, puisque finalement, si je prends la région Bretagne, on travaille avec l'association Triptolème, qui est une association qui travaille sur le sauvetage des semences et qui travaille avec les paysans boulangers. Donc, ce sont des gens qui font leur blé, qui font souvent leur farine, hein, qui ont des petits moulins à meules de pierre. On a peut-être l'occasion de parler de l'incidence de la meule de pierre, et qui font leur pain. Et donc ces gens-là veulent travailler avec des semences anciennes, tout simplement parce que ce sont des semences qui ne nécessitent pas d'intrants style engrais chimiques, qui ne nécessitent pas de désherbants. Alors forcément, on est en petite production, hein. On est à 35 quintaux quand on va être à 100 quintaux, par exemple, en variété plus moderne. Par contre, en termes de nutrition, ça n'a rien à voir. Et donc nous, notre rôle, finalement, c'est de travailler sur cette conservation, parce qu'au sein de Triptolème, on est deux, trois à faire ce travail-là. Et donc de sauvegarder toutes ces variétés au sein de Triptolème.
Donc chaque année, là, c'est le moment, tu as planté
Ouais.
du blé, on voit
On
sur
va
des petites
replanter au
pousses.
printemps, hein. On a aussi des variétés de printemps.
D'accord, ça dépend des
Donc
variétés.
ça permet des variétés et puis ça dépend aussi du climat. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'on a des hivers très humides, donc qui ont tendance quand même à faire certains dégâts dans les parcelles de blé d'hiver. Et donc là, ça fait quelques années où le blé de printemps est très beau. Donc
D'accord.
on est en train de recréer ce qu'on a fait avec des blés d'hiver, des populations, enfin recréer des collections et des populations, pardon, avec des blés de printemps.
D'accord. Donc tu les plantes donc selon la saison. Là,
Ouais.
on en a vu quand même à l'état de jeune pousse. Donc dans plusieurs parcelles, hein, tu n'en as pas que ici, tu en as un petit peu ailleurs. Et quand le blé est à maturité,
Alors, les
vous
petites collections sont récoltées
les.
à la main. Donc là, on essaye d'avoir du monde. C'est là que l'intérêt de l'association joue son rôle. Donc c'est l'occasion d'être 30, 40. On prend des ciseaux ou des couteaux et on coupe les épis un par un. C'est d'abord pour garder les variétés en pur. Et puis en plus, on est sur des surfaces qui nécessitent du matériel style ciseaux et couteaux parce qu'on n'a aucune machine pour le faire. Par contre, sur des parcelles, je dirais, de 10, 15, 20 mètres carrés, là, on a des machines, des petites moissonneuses de collection qui, elles, peuvent récolter.
Ah oui,
Mais
des
comme nous, on travaille que
collectionneuses.
sur des petites parcelles de 2 mètres carrés, donc tout se fait à la main. Le semis se fait à la main, la récolte se fait à la main, le tri se fait à la main. Et après, on a des petites, ce qu'on appelle une batteuse à botillons, qui permet de battre les épis. Quand même. On ne bat pas les épis à la main. Sauf quand on a un ou deux épis.
D'accord, battre les épis, c'est pour séparer
Le grain
les
de la
grains.
balle de l'enveloppe du grain.
C'est ce blé-là, ce que vous récoltez,
Ouais.
vous le ressemez l'année
On le
suivante.
ressème tous les ans. Tout le raisonnement. Et puis, donc, les gens de l'association qui en veulent, on redistribue aussi. Il y en a qui vont se présenter pour sauvegarder une variété. Donc, ils vont en mettre dans leur jardin. Et puis, il y en a d'autres qui vont essayer de créer leur propre population à leur tour. Donc, qui sont futurs paysans boulangers. Et donc, qui sont à la recherche de semences pour leur futur pain.
D'accord, c'est à ce moment-là qu'interviennent donc les paysans boulangers, où ouais. ils viennent, ils voient quel blé ils voudraient c'est ça, tester. C'est
ça. Et il faut qu'ils les tâchent chez eux.
Et eux, ils le reproduisent après.
Et après, c'est à eux de le reproduire. Nous, on n'est surtout pas semenciers. On est conservateurs de la semence, on travaille là-dessus. Moi, je fais du pain à mon niveau parce qu'on est intéressé pour faire quand même des essais donc de panification. Mais je j'ai rien à vendre, j'ai pas de semences à vendre. Et moi, si j'ai quelqu'un qui vient qui me dit je veux 150 kilos de blé, j'ai pas. C'est pas mon rôle et j'ai pas. Et en plus, la démarche correspond pas à ça. L'idée, c'est pas que quelqu'un vienne et dire bon, allez, ça y est, c'est parti, je mets du blé ancien chez moi. La démarche, c'est d'abord de dire je prends quelques variétés, je les essaye chez moi, je vois ce qui marche, et à partir de là, je sélectionne et je crée ma population.
D'accord, il faut combien de temps avant d'avoir une population ?
Ça peut aller assez vite, hein, je dirais 3-4 ans. En multiplication, 3-4 ans, ça peut aller assez vite. Et puis à partir du moment où vous avez 5000 mètres, là, c'est parti. Hein, vous avez. Je dirais quelques centaines de kilos, et donc là, c'est un hectare, deux hectares à suivre, et puis après, c'est parti, quoi. Et c'est à partir de là où on peut faire une transformation en farine, et à ce moment-là, on peut faire du pain, des biscuits ou des pâtes. Et donc, c'est une fois que tout ce circuit-là est fait, où on peut dire, bon, bah, telle variété nous plaît.
Sur quels critères est-ce que tu les sélectionnes ?
Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Ça peut être en agronomie, c'est-à-dire la tenue au champ. Parce qu'il ne faut pas rêver quand même, hein, ce sont des variétés qui font 1m50. Donc un orage, un coup de vent, des pluies un peu fortes, donc ce sont des blés qui ont tendance à verser.
Donc à tomber,
à se coucher. Et donc du coup, en termes de récolte, c'est un peu plus compliqué. Et donc il faut repérer des variétés qui tiennent bien debout, parce qu'il y en a qui sont plus solides que d'autres, il y en a qui ont des pailles très rigides, mais qui ne sont pas forcément intéressantes d'un point de vue gustatif au niveau du pain. Donc il y en a d'autres qui tiennent un peu moins bien, mais qui sont très intéressantes au niveau des arômes. Donc c'est pour ça que quand on fait ce qu'on appelle une population, donc un mélange de variétés, c'est un ensemble de toutes ces variétés, une qui va bien tenir dans le champ, d'autres qui vont être plus intéressantes au niveau de la levée, au niveau des gluten, au niveau des arômes. Donc c'est ce petit mélange qui va faire que chaque paysan va faire sa population, sa propre population. Donc faire un choix de 10, 15, 20 variétés, et c'est à ce moment-là, à partir de cette population, qui va faire son pain. Je serais tenté de dire qu'il y a autant de biodiversité dans le champ que dans les fournils. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque paysan n'a pas envie d'avoir le même pain, les mêmes arômes. Et donc, on fait des tests, on se regroupe par moment, on fait des panifications. C'est-à-dire qu'on utilise différentes farines avec des concepts de partir du même levain, par exemple, parce qu'il y a aussi cette histoire de levain. On ne travaille pas que des levures, on fait que du pain au levain. Donc le levain, c'est une fermentation naturelle de la farine, hein, donc qui a ses propres levures. Et donc on teste les différentes farines, et puis bah, après, chacun, en fonction de ses goûts, de ce qu'il recherche, va sélectionner telle ou telle farine, tel ou tel blé. Et après, c'est chaque paysan boulanger, ou chaque boulanger, qui va faire son petit montage de population. Donc il y a cet aspect d'abord de production, de produire des semences intéressantes pour faire du pain, des biscuits, des pâtes. Et puis il y a l'aspect conservatoire, puisqu'on est à peu près 3-4 dans la région Bretagne à faire ce genre de choses. C'est pas énorme. Hein, et donc pour continuer de sauvegarder ces variétés qui n'existent plus, sauf à l'INRA de Clermont-Ferrand dans les congélateurs, hein, qui les conserve tous les 8 ans, ça passe dans les congélateurs, et c'est semé donc une fois tous les 8 ans. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'évolution de ces semences. Donc du même coup, ben, elles évoluent pas. Elles n'ont pas le temps, puisqu'elles passent plus de temps dans le congélateur que dans le sol.
Ouais, elles peuvent pas s'adapter en étant ressemées chaque année. C'est chaque ça. Année, elles peuvent changer. Là, on les remet au bout de 8 ans. C'est un petit choc.
C'est ça. Et donc, l'idée aussi d'avoir ces variétés, c'est aussi de voir quelles sont celles qui se plaisent chez nous ou chez vous. Hein, donc après, effectivement, on redistribue des variétés, des semences, pour que les gens puissent faire des tests chez eux. Moi, quand j'ai 200 ou 300 variétés ici, sur les 200 ou 300 variétés, il y en a peut-être que 15, 20 qui sont vraiment intéressantes pour mon terroir. Maintenant, celles qui se plaisent chez moi se plairont pas forcément pour quelqu'un qui est sur Angers, sur Paris ou dans les Alpes ou ailleurs.
Et alors, en 10 ans, quelle variété est-ce que tu as développée avec les paysans ? Avec combien d'agriculteurs est-ce que tu travailles ? Et est-ce qu'on peut quantifier en fait le travail que tu fais depuis 10 ans en termes de variété de blé ?
C'est très variable parce qu'en fait, il n'y a rien de fixe. C'est-à-dire que même un paysan, quand il travaille avec une population, rien ne l'empêche de la faire évoluer, cette population. Il suffit de rajouter d'autres variétés. Et puis, il y a aussi une sélection qui se fait naturellement. C'est-à-dire qu'au départ, quand on met 15 variétés de blé dans une population, bah dans le champ, naturellement, il y en a qui vont prendre le dessus sur d'autres. Ce qui fait qu'en 3, 4 ans, 5 ans, la population de départ a déjà évolué, c'est plus la même. Et donc, en fonction de cette variabilité, il y en a qui vont retravailler, rajouter d'autres variétés. Donc, sinon, sur le retour, il y a des gens, des paysans boulangers qui ne travaillent plus qu'avec ces variétés-là. Ou d'autres qui ont décidé de retravailler aussi en mélangeant des variétés semi-modernes. Parce qu'il faut quand même, y a quand même un petit souci aussi, c'est que jusqu'à maintenant, ce sont des variétés qui sont entre guillemets interdites. Donc, qui n'appartiennent pas au catalogue officiel. Ce qui fait que pour des gens qui sont en bio, par exemple, on n'a pas le droit d'avoir l'agrément bio, puisque ce sont des variétés qui n'existent pas. Donc, ils ne sont pas vendus par un semencier qui, lui, peut agrémenter le bio. Par contre, il y a aussi beaucoup de paysans boulangers qui travaillent avec une clientèle de proximité, donc qui n'ont pas forcément besoin d'avoir le label, mais qui savent comment ces gens travaillent, et c'est, je dirais, presque plus bio que bio.
Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Bon, par rapport à toutes ces variétés, qui sont peut-être pas toutes au catalogue officiel, comment est-ce que vous vous arrangez avec l'association au niveau légal? Est-ce que ça pose problème ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire ou ne pas dire?
Alors, au niveau des semences anciennes, le fait qu'elles ne soient pas au catalogue officiel ne permet pas de les commercialiser, ni de les échanger, ni de les vendre. Donc ça, c'est une chose. Mais comme nous, on est association à titre expérimental de tout ça, on a le droit d'utiliser ces semences, encore une fois, pour faire des expériences, pour voir comment elles évoluent dans le temps. Et comme on n'a rien à commercialiser, ça pose aucun problème. Maintenant, les gens, les paysans boulangers, quand ils travaillent avec ces variétés, n'ont pas le droit de donner le nom de la variété qui correspond au pain qu'ils font. Donc, quand on a une population de blé, c'est pas trop grave. On a un pain fait avec des variétés anciennes. Point final. Mais vous n'avez pas le droit de dire je vends du pain fait avec du rouge d'Écosse ou du rouge d'Alsace ou du blé de Redon, etc., etc.
Le mot variété ancienne peut suffire à
Oui.
camoufler, on peut dire.
Bah, camoufler, disons que. Encore une fois, les gens qui sont consommateurs de ces pains-là recherchent surtout une authenticité. Maintenant, ils n'ont pas besoin d'avoir vraiment le nom de la variété, ni de savoir que c'est bio ou pas bio. À partir du moment où ils connaissent la personne qui travaille avec ces variétés-là, comment ils travaillent leur farine et leur pain, il n'y a pas de problème. Au tout début où j'ai travaillé avec l'association Triptolème, on avait le GNIS, qui est le groupement national des semenciers professionnels, qui venait voir ce qu'on faisait, qui venait voir si on ne donnait pas de semences, si on n'échangeait pas de semences et si on ne les vendait pas. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques années un petit peu tendues comme ça, où on sentait qu'on était bien surveillés. Et quand ils ont vu le travail qu'on faisait, finalement, ces gens-là ont abandonné, parce que eux, les premiers aussi, vont chercher dans ces semences des gènes qui les intéressent pour leurs semences un peu plus modernes. L'INRA également, au départ, était un petit peu réticent pour nous donner des semences. Et une fois de plus, ont vu comment on travaillait et sont aussi intéressés pour avoir les retours que nous on a sur les variétés, parce qu'eux se con sont contents de faire de la conservation, mais ils ne font pas de culture. Culture au terme, d'un point de vue agronomique, donc d'études de ces variétés. Et finalement, tout ce travail-là intéresse et les semenciers, et l'INRA, et les consommateurs.
D'accord, vous travaillez avec l'INRA et d'autres
Oui, on
organismes?
travaille. Entre autres avec l'INRA de Rennes, hein, localement. C'est avec eux aussi qu'on a relancé un travail sur le sarrasin, puisque le sarrasin qui n'est pas une céréale, qui est un polygonacé de la même famille que la rhubarbe et l'oseille. Il se trouve qu'en Bretagne, on est les rois de la galette, mais on travaille qu'avec, je serais tenté de dire, un hybride qui est le harpe, qui est la seule variété cultivée. Alors qu'il existait énormément de variétés en Bretagne. Donc là, ça s'est fait. Et là, c'est parti de l'INRA de Rennes, carrément. Alors, le seul souci qu'on avait avec le sarrasin, c'est que c'est une plante qui se pollinise. C'est-à-dire que si vous mettez deux ou trois variétés de sarrasin côte à côte, vous êtes sûr d'avoir des croisements. Et donc, les variétés pures que vous avez au départ vont évoluer. Donc, ça peut être intéressant si on cherche à faire une évolution de la variété. C'est ce que je fais avec le seigle, par exemple. Je mélange des seigles, puisque le seigle est pollinisable. Par contre, si on veut travailler en pur, on est obligé d'isoler de minimum, je dirais 3-4 km, vraiment minimum, les variétés de l'une par rapport à l'autre. 3-4 km, parce que ça correspond, si je prends l'abeille par exemple, c'est à son rayon d'action pour polliniser ou pour aller chercher du nectar ou du pollen.
Et alors, qu'est-ce que vous faites avec le sarrasin? Vous essayez de recréer, enfin, de retrouver des variétés anciennes, pures, ou bien vous faites des croisements, des sélections?
Alors là, l'expérience, ça se fait plutôt sur des variétés pures. Et des variétés pures qui sont transformées en farine et en galette.
D'accord. Où est-ce qu'on trouve les variétés pures alors maintenant?
Eh ben, on les trouve dans des associations comme la nôtre ou quelques agriculteurs qui se sont mis à les recultiver.
Mais à la base, quand on veut refaire une culture de sarrasin, ouais. Où est-ce qu'on trouve les premières graines?
Ben ça, c'est un peu compliqué. Hein. C'est comme pour les blés anciens. C'est éventuellement à l'INRA. Si vous voulez récupérer, vous récupérez l'équivalent d'une poignée de graines. Hein. Toute personne qui souhaite avoir du grain de ces variétés-là peut demander à l'INRA, par exemple, de Clermont-Ferrand, de leur envoyer des graines. Maintenant, vous avez obligation de garder ces graines pour vous. Vous ne pouvez pas les commercialiser ou les donner à d'autres.
Ça peut être un particulier aussi.
Ça peut être un particulier. Bon, par contre, je vous dis, avant de faire un champ, ça nécessite de les multiplier. Et donc, le sarrasin, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit aussi accessible. Mais par contre, nous, on est prêts à en échanger, à en donner sans problème. Et il y a quand même quelques moulins qui commencent à travailler là-dessus. Donc à partir du moment où le grain commence à repasser dans le circuit, il est redistribué un petit peu à droite à gauche. Il y a des échanges qui se font naturellement.
Oui, on prend une petite poignée au passage.
C'est ça. Et puis quand vous avez quelqu'un qui passe, rien n'empêche de lui donner un peu de grain pour ses poules. Maintenant, ce n'est pas de votre faute s'il ressème.
Ou si les poules en perdent un grain,
c'est ça,
tombent du bec.
C'est ça.
D'accord.
Alors juste par rapport aux graines, pour finir là-dessus, il y a une loi qui est passée... Donc cet été, au mois de juillet, comme quoi les jardiniers amateurs auraient le droit de s'échanger des graines, voire de les vendre. Donc ça, c'est sur le côté vente, c'est un petit peu plus délicat. Enfin, il y a le Conseil constitutionnel qui voudrait bien revenir là-dessus. Mais par contre, sur l'échange, ça c'est clair. Tant qu'il n'y a pas vente, on peut échanger des semences entre jardiniers amateurs. C'est surtout quand ça passe dans le côté commercial où là c'est un peu plus compliqué.
Et dans le côté production à grande échelle aussi ou...
Bah, à partir du moment où on est jardinier amateur, on n'est pas tellement là-dedans. Maintenant, il y a quand même des maraîchers qui utilisent des variétés anciennes. Donc là, c'est pareil, ce sont des gens qui, a priori, n'ont pas avant une possibilité de vendre les semences, mais qui ont le droit de cultiver. Et donc de vendre le produit de la semence, c'est-à-dire de vendre des tomates anciennes.
Par rapport à la méthode de culture, justement, toi, ouais. Tu travailles en bio, tu as des méthodes particulières, je ne sais pas, biodynamie, permaculture.
Oui, alors pour ce qui est des céréales, je dirais que le terme bio pour moi ne veut pas dire grand-chose, puisqu'en fait, on travaille sur des sols qui ne sont pas traités, qui ne sont pas désherbés, qui sont pas. Il y a très peu d'intrants. Par contre, on sème le blé en hiver, essentiellement, et puis on le récolte en été, c'est tout ce qui se passe. Alors forcément, il y a un petit peu d'herbe. Mais comme ce sont des blés qui montent à 1,50 m, on peut se permettre d'avoir un petit peu d'herbe sur 20-30 cm. Il suffit de régler la moissonneuse un peu plus haute. Et donc, on récolte nos blés. Alors forcément, comme je disais tout à l'heure, en quantité inférieure à ce qu'on peut faire en moderne en mettant les désherbants et les intrants qui vont bien. Mais par contre, en termes de nutrition, on a quand même autre chose, quoi. C'est un autre produit, ça n'a plus rien à voir. Et puis, à l'heure où beaucoup de gens se plaignent des gluten, on a quand même des blés qui sont beaucoup plus... supportés par les gens au niveau digestif.
En fait, les blés aujourd'hui, les blés modernes, donc sélectionnés avec leur gluten, ils sont aussi plus courts.
Ah, ils sont même beaucoup plus courts, hein, puisque j'ai même l'impression qu'ils sont de plus en plus courts. Tout en étant courts, ils sont encore plus courts.
Et pourquoi est-ce qu'on les sélectionne courts?
Bah, là, on en a pour un petit bout de temps, hein, parce que si on repart sur pourquoi les blés courts maintenant, c'est comme tout à l'heure, on parlait des blés qui versaient. Donc il avait tendance à se coucher. Il a fallu trouver des solutions quand on a cherché à faire du rendement. Donc quand on a commencé à vouloir faire du rendement, ça correspond à peu près à l'après-guerre. On a commencé à mettre des intrants du style nitrate, azote dans le sol, qui sont au passage quand même des résidus de ce qui servait à faire des bombes pendant la guerre. Et donc, quand on s'est aperçu qu'en mettant ces intrants, effectivement, on amenait de la matière organique, pas matière organique, pardon, on amenait des intrants pour nourrir la céréale. Par contre, on favorisait l'averse, c'est-à-dire qu'on rendait fragile la variété, le blé. Donc, on a mis des hormones de nanisme pour raccourcir la paille, et donc pour permettre à ce blé de tenir plus debout. Et donc, comme on avait des variétés donc, qui tenaient debout, on s'est permis de mettre un peu plus d'engrais, donc pour justement favoriser une production plus importante. Mais du même coup, on a aussi favorisé des insectes qui, eux aussi, venaient sur une plante qui était un petit peu engraissée et qui, finalement, était intéressante à manger. Donc, c'est comme ça qu'on a eu des pesticides, des insecticides. Et une plante courte, ça veut dire aussi pas d'herbe. Parce que si vous avez une plante qui fait 40 cm et qui est dans l'herbe, elle n'est pas récoltable. Donc on a aussi mis les insectes, les désherbants. Donc ça veut dire qu'un blé qui au départ nécessitait rien, on démarre par de l'azote, un désherbant, re-azote généralement en janvier, et puis après tous les insecticides, pesticides, fongicides qui vont avec. Donc d'accord. Voilà, un petit peu l'historique. Et donc ça permet aussi de les battre plus facilement, puisque on a des blés avec des belles petites pailles, mais qui, du même coup, ne nourrissent pas tellement l'épi. Puisque, comme toutes les plantes, elles travaillent avec la photosynthèse. Et quand vous avez 5, 6, 7 feuilles sur une tige d'un mètre 50 et que vous n'en avez qu'une ou deux sur une tige de 30 cm, vous n'avez pas la même alimentation de l'épi au bout. Et souvent, vous avez des pailles sèches sur des blés modernes quand l'épi est à peine mûr.
Et du coup, avec les blés anciens, est-ce qu'il y a besoin de méthodes particulières ? Est-ce qu'il y a besoin de pailler au sol ou pas ? Est-ce que ça pousse tout seul ?
Alors disons qu'il y a des expériences qui sont faites derrière de la luzerne. Il y a des gens qui cultivent de la luzerne et qui mettent du blé dedans.
Ça nécessite donc au sol.
C'est-à-dire que qui roule la luzerne et qui sème le blé dans la luzerne.
D'accord.
Il y a aussi des gens qui travaillent sur couvert, donc qui ont des couverts végétaux, qui les détruisent avec des rouleaux, mais par contre là, qui mettent le désherbant. Qui laisse la matière végétale, mais qui met des désherbants.
Donc la matière végétale, elle est vivante.
Elle est un peu broyée, vivante, en surface, et on sème dedans. Mais par contre, pour éviter d'avoir trop d'herbes dans les blés, il y a du désherbant quand même. Donc moi, j'utilise pas ça. Je fais traditionnellement un labour, parce que en plus, ce sont des techniques qui nécessitent quand même du matériel un peu plus moderne. Donc j'ai pas. Donc dans les grandes parcelles, on travaille traditionnellement sur du labour. Ça m'arrive de faire des expériences avec juste. J'ai un rotavateur que je passe juste un petit peu en surface rapidement.
Un rotavateur.
Donc c'est une machine qui tourne. Si j'avais une herse, je ferais qu'une herse. Donc qui permet de détruire momentanément un petit peu la végétation de surface, mais qui ne l'enterre pas. Et donc je sème à ce moment-là. Et bon, ça m'arrive d'avoir des parcelles comme ça, où il y a quand même de l'herbe qui pousse pas mal dedans. Mais bon, après j'ai une qualité de blé derrière qui me plaît bien. Mmh. Alors comme je ne cherche pas le rendement, bah, ça ne me gêne pas plus que ça.
Oui, d'accord. Et est-ce que le fait d'avoir des tiges plus longues aussi permet d'avoir plus de paille ? Et est-ce que ça, puisque j'avais entendu aussi une information me disant qu'il y a de moins en moins de paille en France,
oui,
qu'elle est de plus en plus dure à trouver à cause des blés plus courts, et est-ce
bien
que
sûr.
Ce serait une chose
à reprendre ? C'est une solution pour avoir un peu plus de matière carbonée, puisque la paille, c'est du carbone. Et donc, le principe, c'est aussi de que la paille retourne au sol, donc pour renourrir le sol avec du carbone. Mais il faut avoir de la paille pour ça. Et c'est vrai que derrière une moissonneuse de blé moderne, il n'y a pas grand-chose qui sort au niveau de la paille.
Et oui, il y en a plus avec du blé
ancien. Forcément, puisque entre 40 cm et 1,50 m, ça fait quand même... Et en plus, en termes de qualité. J'ai vu faire des petites bottes de paille et en amener à des gens qui avaient des chevaux et avoir des chevaux qui préféraient manger la paille de ces variétés anciennes que de manger le foin qu'il y avait à côté.
Et donc, ce qui est pratique,
naturellement,
aussi,
c'est-à-dire que sans les forcer.
Oui, de la paille, ce qui est pratique, on utilise pas mal. Donc toi, tu utilises beaucoup de paillage.
En paillage, oui. Beaucoup en paillage, au potager, sous les arbres fruitiers aussi. Donc en permaculture ou en méthode un peu naturelle, on cherche toujours à avoir le sol couvert. Moi, quand je fais même le blé, je dirais je paille pas le blé parce que c'est compliqué. Mais par contre, le sol, une semaine avant de semer, il y a de l'herbe. Hein, puisque comme on ne met pas de désherbant, quand on récolte, je serais tenté de dire que derrière la récolte du blé, vous avez déjà une prairie. Hein. Et donc, quand on ressème, on ressème presque dans la prairie. On travaille le sol momentanément, mais le blé, il sort 8-10 jours après, et ça y est, le sol est couvert. Donc, le sol reste nu très très peu de temps.
D'accord. Ouais. Et puis, d'autres herbes repoussent à côté.
Ah bah oui, c'est assez rapide. Ouais.
Ouais, tu parlais donc de l'intérêt d'une bonne alimentation et de ce qui t'avait motivé, entre autres, c'est ce qui fait partie de ce qui t'a motivé à cultiver ces blés. Sur les blés anciens, donc, est-ce qu'il y a des études ou des choses sur le gluten, justement, ou l'intérêt nutritionnel d'un blé ancien par rapport à un blé moderne ?
Alors, c'est un sujet un petit peu sensible parce que il n'y a pas de recherche encore. Déterminantes qui permettent de dire blé ancien oui, blé moderne non. Tout ce qu'on sait, c'est que en termes de clientèle, hein, moi, C'est des retours que j'ai eus autour des paysans boulangers qui travaillent là-dessus. Les gens qui sont vraiment intolérants, c'est-à-dire qui sont cœliaques, hein, donc des gens qui ne supportent pas le gluten, blé ancien ou blé moderne, ça ne change rien, c'est zéro gluten. Par contre, il y a aussi des gens qui digèrent mal le gluten, qui digèrent mal leur pain. Et là, les retours qu'on a, c'est qu'ils digèrent beaucoup mieux les pains qui ont été faits avec des variétés anciennes. Donc ça, c'est une première chose. Après, si on veut aller un peu plus loin, l'une des variétés qui serait la plus supportable pour les gens encore plus sensibles, c'est le petit épeautre, ce qu'on appelle l'engrain, hein, qui en termes de gluten, est encore beaucoup plus assimilable et ne comporte que 14 chromosomes. Donc on est vraiment sur la variété ancienne par excellence et donc qui serait beaucoup plus supportable par tout le monde.
D'accord. Parce qu'en fait, pour le pain, aujourd'hui, dans une boulangerie conventionnelle, il est fabriqué avec des farines qui ont été un peu transformées.
Ah bah oui.
Le blé a été sélectionné particulièrement pour sa richesse en gluten. Et du coup, les boulangers, comment font-ils si le blé contient moins de gluten? Enfin, si la graine, le grain contient moins de gluten, comment font-ils? Comment est-ce qu'on rend... Est-ce un blé panifiable ou comment on fait s'il n'est pas très panifiable?
Alors ça, c'est pas inintéressant comme question parce que les variétés qu'on cultive sont dites impanifiables par les boulangers à l'heure actuelle ou par les gens qui font de la farine. Alors qu'en fait, les paysans boulangers font du pain et du très bon pain. Ils sont dits impanifiables, pourquoi? Parce que justement, les gluten qui les composent ne sont pas assez résistants et ne correspondent pas à la boulangerie moderne. C'est-à-dire que si on étire la pâte un petit peu, elle se déchire avec des blés anciens, alors qu'elle est résistante avec des blés modernes. Pourquoi on a rajouté des gluten plus puissants, plus résistants, et qu'on rajoute même du gluten dans le gluten? C'est pour pouvoir passer dans les machines, les façonneuses, les diviseuses. Et donc, pour résister au pétrissage rapide, etc., il faut des gluten puissants. Et c'est ce qui fait que ces variétés anciennes ont été abandonnées, parce que si on met tout ça dans des machines, la pâte déchire de partout. Donc, c'est impossible. Donc, les paysans boulangers qui travaillent avec ces variétés-là travaillent en général à la main. Donc, pétrissent à la main, divisent, façonnent à la main. D'accord. Et c'est toute la différence.
Et le pain se tient.
Et le pain se tient. Donc, il y a toute une technique hein, de façonnage un petit peu différent pour donner de la force, justement, au gluten. Mais tout se fait dans le pétrissage. Alors, je suis le premier à me poser des questions quand même par rapport au gluten, forcément, hein, puisque... quand on écoute des gens comme Seignalé, qui est un médecin, qui lui est contre les produits contenant du gluten, contre les produits contenant du lait, hein, contre les lactoses. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Maintenant, je crois qu'il faut quand même qu'on revienne sur l'origine de ces produits, qui effectivement, si on parle du petit épeautre, il était certainement assimilé beaucoup plus que les gluten modernes. Si on parle du lait, c'est certainement le lait aussi des vaches, avant qu'elle soit transformée génétiquement. J'ai un ami qui travaille sur la génétique des vaches, qui a des froments du lion, qui a retravaillé sur cette génétique, et qui avait, sur des expériences sur les protéines du lait, avait déjà vu des modifications entre une traite à la main et une traite avec une machine, où il y avait déjà des protéines qui étaient transformées et moins digestes. Donc effectivement, le lait et les gluten, c'est pas simple au niveau nutritionnel. Si on parle de gluten moderne, de lait moderne et d'autres produits, hein, tous les produits finalement raffinés, qui sont quand même reconnus comme étant pas très bons pour la santé. Je prends le blé par exemple. Si vous prenez un blé de la baguette traditionnelle que vous achetez un peu partout, c'est ce qu'on appelle les farines 55 ou 65. Donc c'est des farines où il ne reste plus grand-chose dedans à part de l'amidon. Et l'amidon, c'est du sucre. Donc effectivement, si on parle de ces gluten-là, ils sont pas bons du tout. Maintenant, en nutrition, on dit quand même qu'il vaut mieux avoir un pain complet ou semi-complet, donc ça correspond à des farines 80. Et si on prend des farines plus complètes, il faut aussi des blés plus bio, puisqu'on va quand même conserver une partie de la périphérie du blé. Et donc, les produits chimiques, s'il doit y en avoir, ils vont se trouver dans ces zones-là. Donc, tant qu'à utiliser des farines complètes, il faut aussi avoir des farines bio. Maintenant, on sait aussi que les gluten, si on mange trop de gluten, parce que le gluten est aussi beaucoup présent dans plein de choses, hein, dans les pâtes, dans le pain, dans les biscuits, et comme on a une alimentation qui est quand même plus orientée vers ce genre de choses que vers les légumes et les fruits, puisqu'au départ, on est quand même plutôt frugivore, donc c'est vrai que ça pose des problèmes au niveau digestif. Et on sait que tout se passe au niveau de l'intestin, l'intestin grêle entre autres, et que le gluten, entre autres, un excès de gluten et de gluten moderne, aurait tendance à créer ce qu'on appelle une porosité au niveau des intestins. et avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de transfert de matières qui ne devraient pas circuler dans le sang et qui finalement ne sont pas éliminées. Il y a des questions à se poser. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, mais pour l'instant, on n'a pas quand même de réponse à 100%. Maintenant, l'alimentation, on sait que c'est 80-85% de nos maladies si on mange mal. Donc, il faut quand même réfléchir à la question.
Ouais, tu t'es bien informé sur le sujet. Tu t'intéresses en fait à la santé au sens large et pas que l'alimentation. C'est un biais qui t'intéresse, notamment avec la
forcément.
Culture.
Forcément. Je crois qu'on ne peut pas travailler sur le bio ou la permaculture ou la nature en général, si on ne s'intéresse pas à nous, humains, d'abord sur cette autonomie qu'on peut avoir, sur cette façon de pouvoir reproduire toutes ces semences. Et puis aussi sur la façon de se soigner, parce que bon là on parle de légumes, on parle de fruits, on parle de céréales, mais on pourrait parler aussi des médicaments hein, qui travaillent avec on travaille sur certaines molécules qu'on a extraites des plantes, mais avec tous les effets secondaires qu'il peut y avoir, contrairement à une plante qui va nous amener ce qu'on appelle son totem, c'est-à-dire que il y a une molécule qui va nous intéresser dans une plante, mais il y a toutes les molécules qui sont aussi autour, qui vont faire que cette plante est beaucoup plus assimilable et beaucoup plus acceptée par l'organisme. Et je dirais que l'idée, c'est de ne pas être malade. L'idée, c'est de prévenir la maladie, un peu comme ça se fait en Chine, où on paye son médecin quand on n'est pas malade, et à partir du moment où on est malade, on ne le paye plus. Et chez nous, il y aurait moyen de se soigner. Enfin, quand je dis soigner, c'est de faire en sorte de ne pas être malade par l'alimentation, en changeant l'alimentation et puis en utilisant les plantes dites médicinales qui sont en fait des plantes toutes bêtes, je pense à l'ortie, au plantain, la ronce, enfin des choses qu'on trouve facilement qui coûtent pas cher. Je pense aussi aux produits de la ruche, le miel, la propolis, le pollen, la cire, le venin d'abeille, etc., qui sont aussi des sources de médicamenteuses entre guillemets qui permettent de pas être malade ou de se soigner de façon beaucoup plus naturelle avec beaucoup moins d'effets secondaires.
Eh oui, ici on dit mieux vaut payer le boulanger que le médecin, alors mieux vaut payer le maraîcher que le médecin.
C'est ça, complètement. Okay. Et bon, à force de dire qu'on est omnivore, en fait on n'est pas omnivore, on est plus frugivore, même si il est recommandé de manger 2-3 fois de la viande par semaine, ou un peu de poisson, mais on n'est surtout pas fait pour manger beaucoup de viande comme on le fait beaucoup. On n'est pas des carnivores, on n'a pas les dents ni le système digestif pour ça. Et en plus, quand on voit qu'il faut quand même 10 protéines animales, végétales, pardon, pour faire 1 gramme de protéines animales, à l'heure actuelle, quand on voit tout ce qui se passe au niveau de la planète et tout ce qu'on fait pour justement avoir ces protéines animales, bah, ça vaut le coup de se poser des questions sur notre alimentation et sur notre façon de nous nourrir.
Alors, je reviens sur tes 300 variétés de blé, 330. Est-ce que c'est toujours les mêmes que tu... Enfin, du coup, elles évoluent, est-ce qu'elles ont des noms? Comment ça marche?
Elles ont des noms. Elles ont des noms. Maintenant, si elles évoluent, elles évoluent localement, elles évoluent chez moi. Après, c'est vrai que j'en donne un petit peu à droite à gauche. J'ai pas toujours de retour sur ces changements, hein, par contre. Mais donc, nous, on ressème nos variétés. Alors, ce qui se passe au niveau des blés, c'est assez peu sensible quand même, hein. Les différences, elles sont un peu sensibles. Par contre, on l'a plus remarqué sur des variétés de tomates, par exemple, où depuis 7-8 ans, je fais mes semences de tomates aussi. Et là où j'étais obligé d'arroser un petit peu plus régulièrement en début avec mes semences, quand je les ai eues au départ, si je prends cette année, par exemple, les tomates ont été arrosées 3 fois. 3 fois tout en étant sous serre. D'accord. Donc ça veut dire que... de plus en plus, elle résiste à la sécheresse. Par contre, un gros paillage, une grosse préparation du sol en termes de paillage et un apport avec du purin d'ortie, du purin de prêle, des consoudes, choses comme ça.
Toi, tu as une formation dans le domaine agricole ou permacole ou...
Non, aucune. Aucune, ça s'est fait au fil des années. Alors, j'ai quand même suivi des stages, je m'informe beaucoup. J'ai fait une formation d'herboriste, enfin, des choses comme ça. Mais en termes d'agriculture pure, non.
D'accord, oui, c'est pas ton corps de métier à la base, tu fais ça en loisir.
Voilà, tout à fait. Et puis je serais tenté de dire qu'il faut prendre beaucoup de temps à regarder la nature, voir comment les choses évoluent, et puis finalement, on s'aperçoit, enfin là je vois sur le site, il n'y a aucun produit chimique. Les seules choses qu'on utilise éventuellement, c'est un peu de purin, des extraits, ce qu'on appelle plutôt des extraits maintenant, puisque le purin, il y a le côté putréfaction, c'est ce qui posait problème aux premier purin qui se faisait, c'est-à-dire qu'on laissait les fermentations se faire trop longtemps. Donc on rentrait en fermentation trop longue, alors que en fait, les purins sont des extraits, sont des tisanes finalement qu'on utilise. Et à part ça, on n'utilise rien. Par contre, on utilise beaucoup les paillages. Ça, c'est sûr que je dirais que pour la base, c'est comme pour nous. Il faut qu'il y ait un terrain sain. Nous, si on veut pas être malade, il faut que le terrain soit sain. Eh bien, le sol doit être sain aussi pour les plantes. Et si le terrain est sain et nourri avec des plantes saines, il n'y a aucune raison que la plante soit malade. Et en plus, il faut de la diversité aussi au niveau des prédateurs. Si on a des pucerons, il faut qu'il y ait des coccinelles. S'il y a des coccinelles, il faut qu'il y ait des pucerons. Si on veut absolument traiter tout de suite le puceron, on n'aura jamais de coccinelle. Donc finalement, les traitements naturels ne seront pas.
D'accord, le jardin s'est équilibré tout seul, du coup, ici.
Alors, il ne s'est pas équilibré tout seul, tout de suite. Puisque au départ, je vous dis, c'était une parcelle, c'était un champ qui était cultivé, hein, traditionnellement, avec des produits chimiques, etc. Donc, il a fallu 6-7 ans qu'il commence à s'équilibrer. Donc là, il commence vraiment à être bien, où on sent bien qu'il y a de la vie, il y a des insectes très variés, il y a des oiseaux, et dans le sol, il y a de la vie. Et donc, c'est ce qui fait que bah, petit à petit, effectivement, le site s'équilibre. Je parle du site parce que il y a, je vous dis, les arbres qui ont poussé aussi. On a mis les ruches, les nichoirs. Il y a des tas de bois, il y a des tas de pierres. Donc, il y a de la vie.
Oui, ça, il y a une activité assez diversifiée parce que donc il y a le blé dont on a parlé, mais aussi donc le potager en mandala, donc les serres avec les tomates, les ruches dont tu viens de parler. Il y a le bois, ça fait une ressource aussi. Des plantes médicinales aussi. Tu as pas mal d'animaux sur le terrain aussi, des poules, des lapins, des moutons, à peu près tous de variétés anciennes.
Alors, les moutons sont des landes de Bretagne. Donc, les landes de Bretagne sont une variété qui a été retrouvée en Brière il y a une douzaine d'années, qui était considérée comme disparue. Donc, c'est la variété de mouton qui recouvrait toute la Bretagne dans les années 1900 et bien avant. Et bah c'est comme toutes ces variétés anciennes, pas assez performantes, pas assez de petits, pas assez gros, donc on les a croisés. Mais en faisant tous ces croisements, on a aussi fragilisé la variété ovine, mais les ovins et les autres, hein, c'est le même principe. Donc ce sont des variétés très rustiques qui ne nécessitent pas l'intervention de l'homme, que ce soit pour les mises bas. Moi, j'ai jamais fait quoi que ce soit pour les mises bas. C'est des agneaux qui naissent en plein hiver avec moins 4 degrés et tout se passe bien. Il y a un abri dans le champ, ils n'y vont pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir du foin, point final, enfin du foin de l'herbe. L'herbe qu'ils trouvent dans le champ, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de rajouter ni d'antibiotiques, ni. Ils sont même pas vermifugés. Hein. Donc par contre, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient accès à des plantes, bah, comme nous. Donc ils ont accès à la ronce, ils ont accès à la feuille de chêne, ils ont accès aux écorces, etc. Donc ce qui leur permet d'amener des tanins, des flavonoïdes, enfin. Certaines molécules qui vont soigner tout seul. Enfin, qui vont faire encore pour qu'ils soient pas malades.
D'accord,
Voilà.
tu l'étends aussi, tu travailles pour la laine ou pas
Alors, moi,
spécialement?
je ne fais pas la laine. Donc, disons qu'il y a déjà pas mal de choses à faire ici. Donc, c'est vrai qu'on pourrait travailler là-dessus. Alors, par contre, quand on fait nos journées portes ouvertes, donc il y a un tondeur qui vient, il y a une personne qui vient avec un chien pour montrer comment on peut diriger un troupeau avec des border collies, c'est une variété de chien. Et on a aussi une personne qui vient filer la laine. Donc on fait quand même des démonstrations pour que la filière soit complète, puisque l'idée c'est aussi cette autonomie, c'est de travailler avec un produit brut et finir avec un produit fini, comme le pain, on part du blé, farine, pain. La laine, ça peut être aussi finir avec un vêtement. On travaille, je prends le chou par exemple, on va finir par faire de la choucroute, etc. etc. quoi. Donc,
Vous faites de la transformation ici sur place.
Donc on fait de la transformation. Pour trouver l'utilité, on n'est pas un conservatoire mort, quoi. C'est-à-dire que c'est un conservatoire vivant. L'idée, quand je parle de variétés anciennes, c'est des variétés anciennes, mais qui sont finalement très modernes, puisqu'elles sont cultivées tous les ans et qu'on les utilise, nous, pour s'alimenter ou pour transformer.
Du coup, au niveau de la conservation, il y a non seulement le blé, les variétés, les animaux. Les
Les
fruitiers,
potagères, les fruits.
tu as des collections de cerisiers, de pommiers, donc tous différents. Et les outils aussi, j'ai vu tout à l'heure. Vous travaillez particulièrement avec des anciens outils que vous récupérez. Comment,
Alors,
c'est quelque chose auquel vous êtes attaché ou pas
disons
spécialement?
que là, on a aussi, parce qu'on avait des projets du style faire un toit de chaume en seigle. Donc, pour pouvoir faire un toit de chaumes sec, on ne peut pas moissonner avec une moissonneuse batteuse. Parce
ça,
que...
c'était pour le four à pain, c'est ça?
Ça, c'est pour le four à pain, mais là, on a un hangar qui est prévu pour faire pour mettre les pressoirs anciens.
Et pour le cidre?
Pour le cidre et le jus de pomme. Donc, pour abriter ces pressoirs, on va faire un hangar qu'on va faire en châtaignier, qu'on va couper, qu'on va écorcer et qu'on va travailler en charpente traditionnelle. Et puis, donc, sur ce toit, on voudrait bien mettre aussi du chaume, mais là, ce qui me plairait, c'est vraiment de faire du chaume à l'ancienne. Donc les anciens travaillent de la paille, de blé et de seigle. Pourquoi? Parce que justement, c'est des pailles longues, d'1,50 m. Le seigle peut monter à plus de 2 mètres. Et pour récolter ces pailles longues, on ne peut pas les récolter avec une moissonneuse batteuse. Parce que ça fait du hachis derrière la moissonneuse. Donc on a commencé à récolter avec une moissonneuse lieuse. Donc qui récolte la tige entière, qui les lie avec une petite ficelle, et donc on peut, à partir de là, récolter la paille entière.
Donc là, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, un tracteur qui tracte
une moissonneuse lieuse, une ancienne moissonneuse lieuse. Et donc, quand on bat ces blés-là, on les bat avec une batteuse fixe, hein, donc où il y a un batteur, une batteuse qui est entraînée par des courroies et un tracteur. À une certaine époque, c'était des chevaux, enfin bon, là, du coup, pour nous, c'est un peu plus compliqué, donc on fait avec le tracteur, et donc on bat les épis avec cette batteuse.
Et c'est des machines que vous trouvez où?
Ah bah là, celle-là, elle était retapée. On l'a retrouvée dans une ferme qui était en train de mourir tranquillement avant de passer à la ferraille, parce que les trois quarts de ces machines-là finissent à la ferraille. Donc, il faut essayer de les récupérer un petit peu avant. Puis, il y a quand même des collectionneurs. Hein. Comme nous, on collectionne et on sauvegarde les semences, il y a aussi des gens qui sauvegardent du matériel agricole.
Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter à tout ce qu'on a dit sur ton travail, sur l'association ou sur d'autres choses qui te paraîtraient
importantes? Non, disons qu'il y a énormément de choses à faire. Hein. Donc là, on a envie de petit à petit se développer pour mettre en place une ferme pédagogique. Parce que maintenant que je dirais que nous, on est convaincus de tout ce qu'on fait, on aimerait bien convaincre les enfants et les adultes de demain, donc les écoles primaire, parce que c'est l'âge où le programme de ces enfants-là correspond bien à ce qu'on fait, mais c'est de mettre en pratique tout ce qui est vu en théorie. On a des projets, donc, suite à ça, d'avoir aussi des styles des cochons noirs de Bigorre, parce que c'est des cochons qui vivent en liberté. Donc aussi, pour les montrer, c'est pas tellement histoire de les manger, mais c'est plus pour montrer un petit peu tous ces animaux, aux enfants, toujours. Développer les plantes médicinales. Donc tout l'aspect santé, là, c'est vraiment un domaine que j'ai envie de développer. Donc préparer des tisanes, faire sécher des plantes médicinales, faire des produits de cosmétiques naturels, faire des transformations, je pense à la propolis par exemple, faire des préparations à base de propolis pour se soigner, pour éviter d'être enrhumé l'hiver par exemple, ou d'avoir mal de gorge ou autre. Donc tous ces aspects-là, oui, ce sont des aspects qui vont être développés dans l'avenir.
D'accord. Toi, tu travailles à côté, tu passes combien de temps en plus de ton travail sur ce jardin?
Ben disons que tout mon temps libre, je le passe au jardin, voilà, pour faire simple. Donc, c'est-à-dire 2-3 heures tous les soirs, après le travail, tous les week-ends, toutes les vacances.
C'est ta deuxième vie.
Voilà. Ben, je pense passer plus de temps ici qu'à mon travail, c'est sûr. Ouais. Mais ce n'est pas une contrainte. Hein, pour moi, la vie, elle est là. C'est un concept de vie, c'est pas... Je ne fais pas du jardin pour me nourrir, c'est ma vie, aller dans la nature, aller auprès de mes plantes, des animaux. Mon équilibre se fait là, puis le mental y est aussi. C'est-à-dire que si on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps, il y a de grandes chances aussi qu'on soit moins malade et moins stressé, et qu'on n'ait pas besoin de tous les médicaments dont on est les premiers consommateurs, je crois, en France.
Oui, des antidépresseurs.
Par exemple.
Ouais. Mais tu n'as pas pour autant voulu vivre de cette activité de jardinage, maraîchage
Alors ça, c'est encore un autre point. C'est-à-dire que j'ai eu une entreprise pendant 15 ans et j'avais plus l'impression de travailler pour les impôts et l'État pour des dépenses inutiles que de travailler pour moi.
C'était une entreprise de quoi?
C'était un centre de remise en forme, un centre de fitness, où déjà là, on travaillait sur le corps, donc être bien dans son corps. C'est ce qui m'a amené aussi à m'intéresser aux légumes et donc à l'alimentation, puisque très tôt, je me suis dit qu'il y avait un lien quand même entre ce qu'on mangeait et notre santé. Et donc, suite à cette expérience professionnelle où je trouvais que finalement, on était quand même plutôt exploité en tant qu'entrepreneur, C'est pour ça qu'ici, c'est une association à but non lucratif, où il n'y a pas d'histoire de commerce. J'étais tenté, hein. Franchement, on serait dans une société qui favorise l'entreprise individuelle, la petite entreprise, sans avoir une fiscalité trop lourde derrière, je serais déjà en train de vendre des légumes, du miel, etc. Mais je trouve que c'est trop contraignant à l'heure actuelle dans notre société.
D'accord. Et tu
Voilà.
ne pourrais pas, dans ce cas-là, avoir cette fonction de conservation?
Oh, si, si, je pourrais très bien avoir les deux, hein. Il pourrait très bien avoir une activité associative tout en ayant une activité professionnelle à côté.
Et alors, du coup, l'association, est-ce que vous êtes combien? Vous êtes tous bénévoles, tu m'as dit
Ouais.
tout à l'heure. Et combien à peu près?
Donc là, il y a une cinquantaine d'adhérents. Tous les ans, ça monte un petit peu. En fait, c'est les journées portes ouvertes qui nous permettent de faire découvrir notre travail.
Est-ce que vous faites donc
Ouais, il y
régulièrement?
a
Tu peux
deux
nous
journées portes
rappeler?
ouvertes par an, une fin juin, une dernière week-end de juin et une dernier week-end de septembre. Donc fin juin, c'est plus axé sur les blés, puisque c'est la période où on peut les voir, on peut voir toutes les couleurs de ces blés qui sont pas ternes, hein. C'est vraiment plein plein de couleurs. Quand on dit des blés d'or, c'est vraiment ça, ça brille de partout. Et donc on fait du pain ce jour-là. Et l'automne, donc on est plus axé sur une journée autour de la tomate, autour des courges, autour des pommes, puisqu'on a quand même une centaine de variétés de pommes. Et donc ces deux journées-là nous permettent de montrer le travail qu'on fait, de montrer aux gens qu'il existe autre chose que ce qu'ils trouvent dans le commerce, de les inciter à manger autrement, à manger bio si possible, à manger des aliments de proximité, d'aller voir s'il n'y a pas des maraîchers ou des producteurs, même de viande, autour d'eux, et de s'alimenter autrement, et de faire le lien avec la santé, puisqu'on travaille aussi avec des gens qui sont... sur tout ce qui est méthode naturelle pour être bien, donc à base de yoga, à base de méditation, à base de réflexologie plantaire, de shiatsu, de yoga du rire, de biodanza, etc., etc. Et donc c'est cet ensemble de choses qui fait que les gens, quand ils repartent, ils sont bien. Et les trois quarts viennent avec les enfants maintenant, puisqu'ils savent qu'ils peuvent manger, on fait des pizzas, des galettes, il y a des fruits à manger, etc. Et là où les gens pensaient rester une demi-heure, finalement, ils restent des fois la journée entière.
Et alors, pour vous contacter ou pour avoir des informations, comment on fait?
Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de site internet. Donc souvent, les gens, je leur laisse mon téléphone. Et puis sinon, on va sur Facebook, avec mon nom, je diffuse un petit peu tout ce qu'on fait sur le site.
D'accord, donc avec Alain Parisien.
Ouais, ou Paris Alain, je sais pas dans quel
D'accord.
sens ça sort, mais...
Oui, bon, on mettra un lien sur des articles peut-être qui ont été faits, sur lesquels on
Alors
trouve ton
sur
contact.
Internet, si vous tapez mon nom aussi sur Internet, il y a aussi les articles qui ont été faits par la presse. Donc il y a quand même quelques petites choses qui sortent.
D'accord, très bien, bon, on mettra des liens. Merci Alain, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ou...
Ben, donc petit à petit on avance, on se fait connaître parce que c'est pas facile, on a assez peu accès aux médias, on n'a pas beaucoup de sous, hein, puisque nos seuls revenus sont les adhésions de nos adhérents. Mais bon, on avance et on a l'intention de continuer d'avancer. Et surtout, au début, j'avais des grandes ambitions de transformer le monde, que les gens mangent mieux, etc. Et je me suis aperçu que c'était pas jouable. Par contre, ce qui est jouable, c'est que petit à petit, on fasse rayonner notre travail autour de nous et que bah, les gens qui nous rencontrent, finalement, modifient leur façon de vivre. Et une dernière chose, la plus grande puissance qu'on ait, c'est celle de consommateur. Et qu'en tant que consommateur, on a un pouvoir énorme pour faire changer les choses par nos choix alimentaires et par nos choix de consommateurs. Et donc maintenant, c'est vraiment le message qu'on passe, c'est quand vous achetez quelque chose, bah faites attention, regardez d'où ça vient, ce que vous achetez, la qualité du produit. Et c'est une force énorme qu'on a pour faire changer les choses. Un industriel, si on n'achète plus son produit, il sera obligé d'évoluer.
Et bien, sur ces paroles, merci Alain.
Enfin, merci. Et puis au plaisir.
C'est la fin de ce numéro de l'émission Acte 2, une balado-diffusion de l'association du passage à l'acte par Lucie Aubin. Merci à Alain Parise et à l'association du Jardin des Forges. Les portes ouvertes devraient avoir lieu les 2 juillet et 24 septembre en 2017. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci d'avance de partager ces sons avec les gens qui vous entourent, de les faire circuler largement, car nous refusons l'industrie de la publicité, nous préférons, et de loin, la réputation que vous nous faites. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous commander des formations, des conférences ou des animations. nous faire un don et bien sûr, guetter nos prochaines publications.